Romain Lalleix, je vous remercie d'être présent au nom des locales et du député Massiglia.
C'est assez solennel, j'ai la pression. Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer mon propos, je constate que le Centre National de la Musique continue de beaucoup faire parler, même quand il n'est pas là. Et j'en suis finalement assez fier, parce que ça a occupé beaucoup de place dans ma vie par le passé. Alors, madame la députée, chère Fatia Keloua-Hachi, qui restera éternellement pour moi la présidente de la Commission Culture, qui a validé ma nomination à l'ARCOM à une voix près. Donc, madame la députée, je vous en remercie. Cher monsieur le député Denis Masseglia, avec qui je travaille également depuis quelques années, y compris sur le Centre National de la Musique, donc je comprends que ça occupe son esprit. Messieurs les présidents des locales, cher Jean-Yves Breteau, cher Farid Boulassel, cher Jean-Marc Courrèges-Sénac et cher Sylvain Delfaux, mesdames et messieurs, les équipes de la CNRA, du SNRL, chère Cécile Durand-Girard, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Merci de votre accueil ce soir. Alors, je viens modestement clore cette séquence qui, d'après ce que je comprends, a été très productive en idées, y compris certaines très disruptives. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là parce que ça me donne l'occasion d'abord de vous témoigner, j'allais dire presque de l'affection, mais en tout cas du soutien de l'autorité de régulation aux radios associatives. Nous avons eu l'occasion de le dire aux assises de la radio. Les radios associatives jouent un rôle fondamental dans la diversité de notre paysage culturel et elles jouent un rôle fondamental dans le lien social, dans la cohésion de nos territoires, de notre nation et dans les moments que nous traversons. En tant que citoyen, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse imaginer de les affaiblir et de les fragiliser. Au-delà de ces mots de soutien qui malheureusement ne remplissent pas les caisses du fonds de soutien à l'expression radiophonique, mais qui témoignent vraiment de l'engagement de l'autorité, je voulais profiter de cette tribune pour vous rendre compte des travaux que nous avons eus à l'occasion des assises de la radio, qui, ces assises ont été un moment important, puisque, vous l'avez sans doute appris, un certain nombre d'annonces ont été faites à cette occasion. Alors, ces assises ont été pour nous l'occasion de dresser un bilan de la situation du secteur radiophonique 2 ans après la publication de notre livre blanc sur la radio. Et vous vous en souvenez sans doute, ce livre blanc marchait sur 2 jambes, reposait sur 2 piliers. Le premier pilier, c'était une ambition, et c'est une ambition que nous continuons de porter avec le secteur de la radio, de transformation digitale de ce secteur de la radio, dans un contexte que vous connaissez tous de véritables batailles pour l'attention du public face à des opérateurs du digital qui ont des moyens illimités et qui parfois opèrent, ou malheureusement bien souvent opèrent, dans un cadre de régulation asymétrique par rapport aux médias responsables, aux médias régulés. Dans ce cadre-là, nous le savons, il faut que le secteur se transforme et qu'il se transforme notamment au moyen du déploiement du DAB+. Mais cette transformation, et c'était un élément fort du livre blanc, elle n'est réaliste que si elle est accompagnée par les pouvoirs publics, accompagnée pour les acteurs privés, commerciaux, dans une simplification du contexte général dans le but de renforcer leur compétitivité, et pour les opérateurs qui assument des missions de service public, et je range dans cette case, bien sûr, le service public, Radio France, mais également les radios associatives, eh bien, accompagnées par de la visibilité, de la stabilité dans leur financement. Ces deux éléments de l'équilibre n'ont pas tout à fait avancé au même point, si je puis dire, et donc nous tirons un bilan un peu contrasté de la situation, et nous avons le sentiment d'être au milieu du guet. Alors, au milieu pour de bonnes raisons, pour des raisons positives, parce que nous avons beaucoup avancé. Nous avons beaucoup avancé dans le déploiement du DAB+, dans la transformation digitale du média. Au moment de la publication du livre blanc, on atteignait à peine les 60% de couverture de la population française. Nous avons dépassé les 75% à la fin du premier trimestre 2026. Pour ce qui concerne la réception en mobilité et dans les bâtiments, nous couvrons 75% de la population présente dans l'Hexagone et en Corse. Et si on restreint l'analyse à la mobilité, eh bien nous avons dépassé les 80% il y a quelques semaines. Donc le réseau DAB+ a énormément progressé. On couvre maintenant plus de 21 000 communes et l'intégralité de toutes les communes de plus de 50 000 habitants dans l'Hexagone. Donc ça, c'est un vrai motif de satisfaction et c'est le fruit d'un travail commun de l'autorité, des éditeurs, des radios et des diffuseurs. Le deuxième motif de satisfaction, c'est que nous avons déployé ce réseau, en tout cas nous nous sommes efforcés de le faire en tâchant de mieux tenir compte des réalités territoriales. Vous le savez, le DAB n'offre pas la même souplesse, la même finesse de maillage territorial que l'AFM, et donc ça soulève très concrètement beaucoup de difficultés, notamment pour les radios associatives qui parfois ne se retrouvent pas dans les allotissements que l'autorité a pu dessiner par le passé. Et donc, à votre demande, nous avons cherché à affiner ce maillage, à mieux découper les allotissements, et nous allons très prochainement rendre public les résultats d'une consultation publique en préparation de l'appel aux candidatures numéro 12, DAB+, qui va concrètement, j'allais dire, traduire dans les faits ce maillage plus mieux adapté aux réalités des territoires. Le troisième élément de satisfaction importante, c'est que cette dynamique de déploiement, je le disais, elle est le fruit d'un travail collectif et elle s'est inscrite avec l'aide d'une organisation, Ensemble pour le DAB+, dans laquelle cette association, l'ensemble du paysage radiophonique s'est investi avec beaucoup d'engagement, et ce qui a permis à Ensemble pour le DAB+, de mener des campagnes de communication très efficaces, en radio, en télé, d'organiser récemment avec l'entreprise Fnac Darty une opération commerciale inédite de promotion des récepteurs. Donc on a là vraiment une action collective très efficace, et qui a permis de faire progresser la notoriété du DAB+. Néanmoins, et c'est là où on est au milieu du guet, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, néanmoins, on est très très loin du compte, hein, puisque la notoriété assistée du DAB+, est d'à peine 35%, ce qui est également le taux d'équipement de nos concitoyens. Et donc on voit bien que entre les efforts considérables qu'engagent les éditeurs, et en particulier les radios associatives, qui comme l'ensemble du paysage ont assumé un double coût de diffusion pour une certaine partie d'entre elles, eh bien nous n'avons pas, en termes d'usage, d'audience et de notoriété, le retour sur investissement, ce qui pose bien sûr des difficultés. Et des difficultés qui s'inscrivent dans un contexte budgétaire très complexe, avec les problématiques du FSER bien sûr, mais aussi les problématiques des financements des collectivités territoriales. Et donc nous commençons à l'ARCOM à malheureusement voir se multiplier les demandes de restitution de fréquences de la part des radios associatives. Alors certaines renoncent à se déployer sur le DAB+, ce qui est vraiment un constat d'échec hein, pour le régulateur qui est en train d'essayer de déployer ces technologies, ou certaines renoncent à l'AFM, mais prennent le risque de se couper d'une partie de leurs auditeurs, ce qui n'est pas non plus satisfaisant. Et c'est pour cette raison, et partant du constat que cette tendance et que cette situation n'était pas durable à court et moyen terme, c'est pour cette raison que nous avons décidé de lancer un nouvel exercice à partir de la rentrée avec l'ensemble du paysage radiophonique pour converger vers un scénario central de déploiement du DAB+. Aujourd'hui, le livre blanc prévoit en quelque sorte une espèce de fil de l'eau qui prévoit que dans certaines circonstances, lorsque certains prérequis seront remplis, etc., blablabla, on passe à la bascule. C'était très pertinent il y a 2 ans, mais on constate que ce fil de l'eau peut aboutir à, en fait, le fait de prendre acte d'une double diffusion durable qui risque de pénaliser, voire de faire disparaître une partie du paysage. Donc on souhaite relancer cet exercice, modéliser plusieurs scénarios et faire en sorte que le secteur de la radio, l'ARCOM, mais l'ensemble des pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement et le Parlement, puissent s'entendre sur un scénario central. Et je vais être très clair, il nous semble que, quel que soit le scénario que nous retiendrons, la question d'un accompagnement public, et je dis ça sans légèreté aucune et en ayant pleinement conscience des contraintes qui pèsent sur nos finances publiques, mais que la question de l'accompagnement du secteur devra se poser. Et en tout cas, nous, autorités de régulation, nous souhaitons mettre des chiffres très précis sur ces scénarios et faire en sorte de pouvoir arriver à converger autour de l'un d'entre eux. Deuxième élément très important pour nous, donc j'évoquais l'équipement, nous rentrons dans une phase de très grande incertitude quant à la présence de la radio dans un certain nombre d'équipements, à commencer par l'automobile. Vous savez que le temps d'écoute de la radio, c'est à peu près 30% en mobilité dans les voitures. Or, nous avons des constructeurs automobiles qui ont annoncé qu'ils souhaitaient retirer les récepteurs FM ou DAB de leur modèle. vais pas les citer, mais il y a des constructeurs américains, des constructeurs chinois et malheureusement, je dois le dire, des groupes européens, voire français, qui ont fait cette annonce. Et donc, on imagine bien que tous les efforts dont on parle, le déploiement du DAB, les investissements, la transformation digitale, si demain, il n'y a plus de radio dans les voitures, si demain on est obligé de passer par des agrégateurs numériques pour accéder à la radio, eh bien tous ces efforts en réalité seront vains puisque ces agrégateurs seront des véritables gatekeepers qui bien sûr favoriseront les éditeurs avec lesquels ils ont des partenariats et donc ce serait très défavorable en particulier au tissu associatif. Sur cette question de la diffusion digitale, par ailleurs, parce qu'on est bien évidemment pas hostile à la diffusion digitale, vous faites d'énormes efforts pour être présent en hyperradio, c'est un mode d'accès, beaucoup de nos concitoyens accèdent à vos services via l'hyperradio, parfois parce qu'ils n'y ont pas accès en FM ou en DAB+, donc nous n'y sommes pas hostiles, mais nous sommes bien évidemment favorables et nous appelons de nos voeux que cette diffusion digitale soit protégée, que les éditeurs de radio ne soit pas pillé, qu'il n'y ait pas une captation de la valeur qu'il crée par les opérateurs du digital. Et donc, c'est un deuxième combat. Et ces deux combats, qu'il s'agisse de l'équipement ou qu'il s'agisse de la protection digitale, il nous semble que nous devons les mener à l'échelle européenne, bien évidemment. Et deux textes qui sont à l'étude sont d'excellents véhicules pour faire avancer ces combats. Le règlement sur les réseaux digitaux, le DNA, qui remplacera le code des communications électroniques et qui peut nous permettre d'imposer une obligation d'équipement aux constructeurs automobiles, et la directive sur les services de médias audiovisuels, la directive SMA, qui pour l'instant n'intègre pas la radio au champ des services audiovisuels, ce qui peut paraître lunaire, aux yeux de la loi européenne, la radio n'est pas un média audiovisuel, eh bien nous souhaitons qu'elle le devienne à l'avenir, et que, comme l'ont fait nos voisins britanniques, eh bien, on puisse garantir aux éditeurs que les agrégateurs numériques respectent l'intégrité de leur signal, qu'ils ne soient pas en situation d'exiger d'être rémunérés pour rendre vos services accessibles. Donc ça, c'est un combat très important. Mais ce sont aussi des combats, et ce sera la fin de mon propos, que nous devons mener à l'échelle nationale. Et vous avez dû voir que le président de la commission culture du Sénat, le sénateur Lafon, a annoncé à l'occasion de ses assises sa volonté de déposer une proposition de loi en faveur du média radio et en faveur du seul média radio. Et je tiens à le dire, c'est un signal très fort pour le secteur qui n'a pas toujours été au cœur, malheureusement, de l'attention du débat des politiques publiques au sens large. Je ne dis pas forcément qu'au Parlement. Donc le sénateur Lafon a pris cette initiative que nous appelions de nos voeux, pour rien vous cacher, que nous soutenons bien sûr, qui, à l'occasion des assises, a été soutenue de manière explicite par la ministre de la Culture et donc par le gouvernement, et nous nous en réjouissons. Et donc, je saisis l'opportunité de m'adresser directement, bien sûr, aux députés Denis Masseglia et Fatia Kelouachi pour dire que cette initiative du Sénat, nous savons qu'elle pourra compter au sein de cette Assemblée sur le soutien et l'accompagnement de parlementaires qui sont très sensibles à la cause de la radio. Et j'en profite pour rendre hommage à votre action, à l'un et à l'autre, sur la question du financement du FSER. La culture compte ses amis parmi les représentants de la nation, et nous en avons deux illustres représentants ici. Et je tiens à le dire, il faut aider nos parlementaires qui se battent pour les secteurs culturels et notamment pour le secteur de la radio. Et donc j'espère que cette initiative du sénateur Lafon sera soutenue comme elle le doit par l'ensemble des secteurs, par le Sénat et bien évidemment par l'Assemblée nationale. Et je me réjouis que le gouvernement ait annoncé également son soutien. Donc je ne serai pas beaucoup plus long, j'ai été pas assez bref, lapsus, et simplement vous remercier de votre invitation. Et puis vous dire aux uns et aux autres que bien sûr, on tâche de multiplier les contacts, de se déplacer, d'aller à votre rencontre. Vous êtes très nombreux et on s'en réjouit, donc ce n'est pas facile de voir tout le monde, mais qu'on est bien évidemment à votre disposition pour poursuivre les échanges.